On raconte qu'un homme avait rêvé qu'un trésor était caché sous un pont dans une ville lointaine. L'homme s'est mis en route et a voyagé pendant longtemps. Et lorsqu'il est arrivé sous le pont, il y avait là un mendiant qui lui a dit que il n'y avait pas de trésor ici. Il le saurait, depuis le temps qu'il était là. Mais que lui rêvait chaque nuit d'un trésor sous un arbre dans un jardin. Et quand le mendiant a décrit la maison à côté de cet arbre, l'homme a reconnu la sienne. Alors il s'est remis en route et est retourné chez lui. Quand il a creusé au pied de l'arbre, il a trouvé un trésor fabuleux. Bienvenue dans Il était une fois des sages, un podcast créé et réalisé par Marie Ray. La musique est de Pascal Rochat. Si vous croisez Richard, vous le verrez sûrement en train de marcher, un chapeau noir vissé sur la tête. Il aime réfléchir, s'interroger et comprendre. Richard a vu le jour à Genève, dans le quartier de Plainpalais, en 1946.
Et je suis né dans une famille mixte. C'est-à-dire mon père était catholique et ma mère protestante. Et j'ai une sœur qui a 4 ans de moins que moi.
À ce moment-là, son père avait un magasin de chaussures. Il était bottier. Il avait appris son métier à Paris. Il vendait des chaussures de luxe pour dames. Sa femme, la maman de Richard, le secondait au magasin.
Ce qui a eu pour conséquence que j'ai une maman-grand-maman. C'est-à-dire que c'est ma grand-mère qui me gardait. La spécialité, c'est qu'on habitait sur le même étage dans l'immeuble. Donc, ma grand-mère, c'était la porte en face de la nôtre. Et quand ça n'allait plus très bien à la maison, j'allais chez ma grand-mère. Et c'était vraiment ma grand-mère, c'était très précieux pour moi.
Il avait une relation particulière avec cette grand-mère Jeanne, la maman de sa maman. Elle le chouchoutait, n'hésitait pas à l'emmener à la pâtisserie, faire le marché avec lui. Il partageait son quotidien. Il faut dire que Richard remplaçait un peu le fils qu'elle avait perdu à la naissance. Sa grand-mère et sa mère étaient deux femmes très différentes.
Ma grand-mère, elle était plutôt soumise. Et mon grand-père, c'était un homme du Jura. Salzmann, il s'appelait. Et d'origine suisse allemande, les noms, mais mon grand-père, il fallait que ce soit prêt à midi sur la table. C'était un homme, il voulait comme ça et pas autrement. Donc ma grand-mère, elle faisait tout pour que mon grand-père soit content. Alors que chez nous, mon père faisait tout pour que ma mère soit contente. Oui, ils avaient 11 ou 12 ans d'écart, c'est plus très sûr. Donc, mon père était plus âgé que ma mère. Et quelque part, il la chouchoutait, quoi. C'était intéressant. Ils s'aimaient beaucoup, mes parents.
Sa maman aurait voulu une fille. Oui, mais voilà, Richard ne correspondait pas à ce qu'elle attendait. Alors qu'après la naissance de Richard, sa maman est retournée assez vite au travail, eh bien, lorsque la sœur est née, la maman est restée à la maison. Et ça a été difficile pour Richard. C'est vrai qu'il avait de la peine à trouver sa place.
Et à 5 ans, avant l'école, je me rappelle que j'étais un peu perdu, quoi. Et un dimanche matin, je me promenais sur le trottoir, je m'amusais tout seul. Et puis, il est passé une fanfare. Et moi, j'ai été pris par la musique et j'ai suivi la fanfare. Mais j'ai suivi vraiment longtemps. Mais après, je ne sais plus où j'étais. Puis je ne pouvais pas dire où j'habitais. Alors, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais quelqu'un m'a ramené dans le quartier où j'étais. Puis là, je me suis retrouvé. Mais c'est pour dire que je cherchais toujours à être bien avec d'autres parce que chez moi, je ne me sentais pas bien. Je n'avais pas vraiment une place pour qui j'étais.
Richard évoluait dans un univers féminin. Il aimait être à la cuisine, jouer à la poupée avec sa sœur. C'était un garçon d'une grande douceur. Ce qui énervait profondément son père qui lui disait « quand ça va pas, on discute pas, on cogne et après on discute ». Oui, son père, c'était pas un tendre. Il était colérique. Et quand cette colère se manifestait, il criait, claquait les portes, perdait ses nerfs. La porte de la cuisine, justement, en a gardé longtemps un souvenir fendu.
Parce qu'il avait fait tout aussi un parcours de boxeur quand il était à Paris. Donc c'était un homme bagarreur. Il racontait des choses qu'il avait vécues à Paname et compagnie. Et quelque part, ça faisait envie. Mais c'était pas moi. Puis après, comme ils avaient le commerce le jeudi, ils me donnaient facilement 1,50 € pour aller au cinéma. Il y avait un cinéma pas loin du magasin. Et puis là, on allait voir des westerns. Dans les westerns, c'est des hommes, quoi. Donc j'ai voulu être un homme comme ça, mais je ne suis pas sûr que c'était vraiment ma nature. Donc ça m'a joué des tours.
Pour Richard, l'école, c'était le calvaire. Il était petit, malingre, se faisait marcher dessus. Il ne savait pas vers qui se tourner et avait de la peine à établir des contacts, des connexions. Il était un peu à cheval entre les filles et les garçons. Il avait cette part féminine très forte, mais son père voulait faire de lui un bagarreur, un dur. Un jour, il a changé d'école.
Dans ma nouvelle école, je me suis dit, maintenant c'est fini. Plus personne ne me marchera sur les pieds. Donc dans la classe, j'ai cherché le caïd de la classe. Et puis à la première récréation, la deuxième, enfin très vite, j'ai défié au bras de fer et j'ai gagné. Donc on est devenus potes. Et puis là, déjà, j'avais une autre identité. C'était le gars qui fait le bras de fer mieux que le caïd, tu vois. Et puis après, dans le préau, j'ai fait à peu près la même chose. C'est-à-dire que j'ai cherché le caïd du préau pendant les récréations. Et c'était un forain, Ether, il s'appelait. Et là aussi je l'ai pris à part, puis je lui ai fait peur. Je lui ai dit, écoute, maintenant, on est deux, hein. Donc tu me fous la paix, moi je te fous la paix, autrement je te casse la gueule. Et puis il m'a dit, ah non, c'est bon, on est les deux. Donc j'ai fait ma place comme un gars que j'étais pas vraiment.
Richard, fort de son nouveau statut, ne se faisait plus embêter. Mais il détestait l'école. À tel point que ses deux dernières années de l'école obligatoire, il les fera au Grütli, un établissement à Genève pour enfants difficiles. Le rêve de Richard quand il était enfant, devenir un caïd.
Un jour, je serai un mauvais garçon, quoi. Enfin, je voulais être dans... Puisque j'étais dans la marge, je voulais être vraiment dans la marge. Je voulais pas entrer dans les moules. Donc j'ai longtemps voulu devenir un caïd, devenir dans le quartier. Bon, moi, j'ai grandi entre deux, hein. Dans le quartier, il y avait un bar à café en face de chez moi. Puis là, il y avait des plus grands que moi, de bien que 4-5 ans. Et puis j'ai découvert ces gars. Et ils discutaient déjà à l'époque. Eux, leur job, c'était de gagner de l'argent facilement. Et il y en a un qu'on avait appelé le perceur de coffres parce qu'il s'est fait choper à vouloir percer des coffres forts. Et c'était un voleur. Puis les autres, ils voulaient aller en Asie chercher de la canne pour la ramener. Et on en parlait, ils discutaient, etc. Et il y en a un qui s'était fait péter la main avec une carabine parce qu'elle était bouchée. Et il avait une main en plastique. Donc c'était pas des tendres, c'était des durs, c'était vraiment des durs. Et c'est devenu mes potes. Je me plaisais avec eux. C'était mon projet, c'était de devenir un casseur.
La famille de son père était catholique, très traditionnaliste, voire intégriste sur certaines positions. Le père et la mère de Richard se sont fréquentés pendant 12 ans. Les parents ne supportaient pas l'idée que leur fils se marie avec une protestante, une hérétique. Contre vents et marées, ils se sont quand même mariés. Mais cela a provoqué une cassure avec la famille paternelle.
D'ailleurs, mon grand-père paternel... Je l'ai vu que 2-3 fois dans ma vie, et la dernière fois, c'est dans le cercueil. Donc, je peux pas dire que je le connaissais. Puis il me faisait peur. Il était grand, baraqué, c'était un terrassier, lui. Il avait des grosses mains, il fumait la pipe, toujours les doigts noirs. Enfin, il buvait, c'était un alcoolique. C'était compliqué.
Les relations entre son père et son grand-père n'étaient guère mieux.
Puis mon grand-père, il méprisait mon père, parce que mon grand-père maternel, il n'est pas mon père. Donc, chaque fois qu'il y avait une réunion de famille, il cherchait à l'humilier. Enfin, il y avait mauvaise ambiance chez moi. Donc, ma mère et ma grand-mère maternelle étaient très, très proches. Et puis mon grand-père maternel et mon père étaient très éloignés l'un de l'autre. Donc, ils envoyaient des fions, souvent ça finissait, ils s'engueulaient, enfin, c'était pas sympa, quoi.
Son père, à un moment donné, a dû abandonner son commerce. Ce n'était pas un bon gestionnaire. Et pour couronner le tout, il était tombé gravement malade. Son ulcère à l'estomac avait failli l'emporter. Au lieu de déclarer faillite, il a reconnu ses dettes. Et cette charge financière a pesé lourd dans la balance. Les fins de mois étaient difficiles. Richard portait souvent des habits rapiécés. C'était lui qui était envoyé à l'épicerie du coin pour faire les achats. Au lieu de réclamer l'argent qu'il n'avait pas sur lui, l'épicier notait le montant sur un carnet en espérant qu'il serait payé un jour. Son père a dû donc trouver un nouveau travail. Il a été engagé comme concierge dans une usine. Et à ses heures perdues, il réparait les chaussures des employés dans un petit atelier qu'il avait installé dans sa cave. Dans cette entreprise, il y avait une femme particulière, différente.
Et puis, à 12 ans, l'usine où mon père travaillait, il y avait une femme qui était au bureau, une dame Junot, qui était vraiment très engagée dans la foi, dans une église apostolique à Genève. Et puis, à un moment donné, elle invite mes parents en disant « Mais il y a un Canadien qui vient avec sa femme, c'est un pasteur qui chante avec la guitare et puis qui annonce l'évangile. Venez, vous verrez, vous ne serez pas déçus. » Et puis mes parents, bon, je ne sais plus si mon père est venu, mais en tout cas, ma mère est venue et puis elle m'a pris avec parce qu'il y avait une guitare. Puis je jouais la guitare à ce moment-là. Et puis j'ai commencé avec la guitare. Et puis, effectivement, cet homme, ce Canadien, nommé Richardson, Il a annoncé l'évangile comme je n'avais jamais entendu. Et j'ai levé la main, bien sûr. Quand il a demandé la conversion, qui c'est qui veut donner son cœur à Jésus, moi j'ai levé la main. Ce qu'il propose, moi je le veux, tu vois, sans imaginer tout ce qui pourrait suivre. Et puis, à la fin, ils ont demandé si on voulait donner notre adresse. Maman a donné son adresse. Et puis, il y a un monsieur de l'église apostolique à laquelle cette femme appartenait qui est venu à la maison. Et puis, là, je ne me rappelle plus très bien, c'était un monsieur d'un certain âge. Il a lu un passage dans la Bible, il a dit deux, trois choses, il a prié pour nous, et puis il est reparti. Fin de l'histoire.
Le temps a passé. Richard continuait sa vie entre ses amis peu recommandables et son école, enfin, quand il y allait. Sa maman avait remarqué qu'il aimait bien rendre service. Elle lui avait appris tout ce qu'il fallait savoir pour tenir une maison. Un jour, elle lui demande d'aller acheter des médicaments pour les voisins à la pharmacie de l'autre côté de la plaine de Plainpalais. Il y est allé volontiers. Justement, sur la grande place, il y avait une immense tente qui a intrigué Richard.
Alors après, j'ai la pharmacie, puis je suis revenu derrière la tente, puis j'écoutais ce qui se passait. C'était les gitans qui annonçaient l'évangile. Puis là aussi, il y avait la guitare, les chants et tout. J'étais heureux comme un pape, quoi. Et à la fin... J'étais dehors dans la tente, je suis resté dehors, je ne suis pas rentré dans la tente. Appel à la conversion, le grand Richard, j'avais une quinzaine d'années, je pense. J'ai traversé toute la tente et j'étais dans les premiers devant l'estrade pour répondre à l'appel. Mais je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, mais j'étais attiré. Et puis il a prié pour nous. Et puis, rebelote, je suis ressorti, puis j'ai pris mon vélo, je suis rentré à la maison, puis voilà. Puis, quelques temps après, j'ai reçu un courrier de ces gitans qui demandait si on voulait se faire baptiser, puis qui proposait une séance de baptême. Mais moi, je suis baptisé, je vais pas retourner là-bas, quoi. C'est fait pour moi. Ça m'a pas changé beaucoup, mais c'était une étape importante. Parce que, quelque part, ça avait été plus profond, si tu veux.
La maman de Richard n'était pas très religieuse, comme on dit. Elle n'allait pas souvent à l'église, priait de temps en temps avec ses enfants, lisait parfois la Bible. Mais elle a tenu, voire exigé, que Richard suive le catéchisme. Elle voulait qu'il ait une formation solide concernant la foi. Après ça, il ferait ce qu'il voudrait.
Puis moi, j'ai beaucoup aimé ma mère, donc j'étais plus en bagarre avec mon père, parce qu'à cause de l'autorité, tu vois. Donc j'ai dit, ok, je vais faire ça. Et puis, en fait, j'ai été à la paroisse protestante du quartier. Et puis là, il y avait un jeune pasteur qui venait de France, qui avait fait la mission populaire en France, un homme qui avait aussi trois garçons. Et un jeune couple, des jeunes enfants à peu près de mon âge. Moi, j'étais un peu plus âgé qu'eux, mais quand même, on était assez proches. Et puis, cet homme a été quelque part un visage masculin différent et l'image d'un père que j'avais pas. Donc, et par la suite, il est devenu mon père spirituel, parce que j'ai fait skater pendant 2 ans, et puis là, pour faire plaisir à maman, je me suis dit, bon, ben, je vais confirmer, comme ça elle sera contente, et puis, ok. Et puis, le pasteur m'a convoqué peu de temps avant la confirmation, puis il me dit, voilà Richard, on arrive au bout de cette formation. Dimanche, on a le culte consécration. Je vais te poser une question comme à tout le monde. Est-ce que tu es décidé à suivre les principes de l'Évangile et à marcher avec Dieu? Et puis, tu peux répondre oui ou non. Si tu dis oui, tu diras oui avec l'aide de Dieu. Et si tu dis non ou si tu réponds pas, ben, c'est ton choix. Mais moi, je pouvais pas dire non. Je ne pouvais pas dire non, ma maman était là, et puis ils avaient tout fait une petite fête, enfin bref. Donc j'ai dit oui avec l'aide de Dieu. Et puis à partir de là, j'étais coincé. Parce que, franchement, j'étais pas tranquille, quoi.
Cette fois-ci encore, sa vie n'a pas grandement changé. Il continuait comme avant. Il avait commencé un apprentissage comme mécano sur voiture. Il a dû vite abandonner. Il était allergique aux produits utilisés. Il s'est alors tourné vers un métier de vendeur dans une entreprise qui vendait des fourneaux, du mazout, des appareils électriques. Il avait une bande de copains qui avaient décidé d'aller aider les sans-abri à Paris. Ça a bien plu à Richard. L'aventure avec un grand A. Le jour où il devait acheter son billet de train, il a enfourché sa bicyclette, mais en chemin, il a été stoppé net. Un automobiliste a ouvert pile sa portière au moment où il passait. Sérieusement blessé, Richard a dû rester en Suisse. Parfois, Dieu ouvre des portes auxquelles on ne s'attend pas. Ah, il avait une autre idée en tête pour Richard.
J'ai fait mon cathet, puis j'allais au groupe de jeunes, et puis il y avait des copines, et puis là, je me suis mal comporté, et j'ai fini dans une situation où je me sentais tellement mal que j'ai besoin d'en parler au pasteur. Et c'est là que je lui ai téléphoné, puis qu'il m'a dit lundi à 18h, et je suis allé, puis là, j'ai ouvert mon sac, puis je dis, voilà l'homme que je suis vraiment. Et puis je lui ai raconté toutes mes phrases, toutes mes histoires de femmes et compagnie, tout. Et puis, il m'a écouté patiemment. À la fin, j'ai déballé mon truc, j'étais pas très fier, j'étais plutôt mal dans ma peau. Puis il me dit, regarde, tu vois cette croix là-bas? Et puis je dis, oui, je la vois. Et bien maintenant, Richard, si tu crois maintenant que là, sur la croix, Jésus a porté tout ce que tu viens de me raconter, tout, ta vie peut commencer de changer. Et j'ai dit, oui, je le crois. J'ai cru ça, d'un bloc. Et je suis sorti de l'église, j'étais toujours le même à l'extérieur. J'avais toujours mon blouson, le col relevé, mon couteau à cambrer dans la poche, mais j'étais un homme qui commençait à être nouveau. Ma vie a changé. C'est pour ça que je dis, c'est pas moi qui ai cherché Dieu, c'est lui qui m'a cherché.
Dieu avait patiemment attendu Richard, l'avait cherché inlassablement, et pour cela, il avait mis à contribution une personne chère au cœur de Richard.
Oui, je dois aussi ça à ma mère, qui, comment dire, sans être une pratiquante fanatique et tout à fait régulière, avait sa foi de femme protestante. Et quand j'ai commencé à mal tourner, à rentrer à 4 heures du matin, à me saouler la figure, etc., elle a vraiment paniqué. Puis là, elle s'est mise à prier, comme elle n'avait jamais prié. Et non seulement... Pour prier, on avait un chien, elle partait avec le chien, elle montait depuis les Acacias jusqu'au Grand Lancy, ça fait bien 20 minutes, demi-heure de marche, pour aller prier dans une grotte votive, qui se trouve d'ailleurs une cathédrale catholique qui est dans la commune de Lancy. Et là, c'est plein de petites plaques votives qui disent des gens qui ont prié pour ça, puis que Dieu a répondu. Un lieu de prière. Puis les églises étaient fermées à l'époque, hein, pendant la semaine. Mais là, c'était ouvert. Donc elle montait là-haut pour prier, puis elle priait pour moi. Puis elle m'a dit après, bien après, elle priait en disant « Seigneur, si tu sauves mon fils, je veux qu'il te serve. »
Quelle prière ! Ne dit-on pas que les prières des mamans sont les plus persévérantes et combatives ? Richard, après sa conversion, homme fonceur, extrême, parfois s'est lancé corps et âme pour Dieu. Il lisait la Bible, les grands récits missionnaires, allait à l'église, participait comme guitariste dans un groupe de jeunes. Le baptême était une suite logique. Ce jour-là est arrivé. L'homme qui l'a baptisé s'appelait Monsieur Berceau. Cette journée était déjà parfaite pour Richard, mais il ne s'imaginait pas qu'elle allait prendre un tournant inattendu.
Il est venu au baptême avec sa femme, mes parents étaient là aussi, et après le baptême, le dimanche, là, il a dit, ben, la famille Fossera, vous venez à la maison, on va boire le thé ensemble. Et alors on est tous montés à la plaine chez lui, et quand on est arrivé dans cette maison accueillante de chrétiens, il chantait des cantiques. Et puis cet homme qui était pianiste jouait du piano, et puis toute les gens qui étaient là chantaient des cantiques. Puis quand je rentre, avec ma famille, on rentre là, il me dit « Richard, prends la guitare !» Puis il dit « Hey Michel, viens, prends le piano !» Elle se met au piano, moi à la guitare, et puis on a commencé à faire. Les deux, c'est la première chose qu'on a fait ensemble. C'est un souvenir extraordinaire. Puis on a fait ça des quantités de fois après. Parce qu'elle est devenue la pianiste du groupe. Et puis, tu vois un peu, quoi, on a marché ensemble. Ça a été immédiate. Et 2 ans après, on s'est mariés.
Ah, Michel, la femme de sa vie. Il a tout de suite aimé.
Alors, ça, d'abord, sa foi. Et là, je me suis dit, bah, là au moins, on est tranquille, quoi. On est sur la même longueur d'onde, tu vois. Son talent. Moi, j'étais musicien, elle était musicienne, mais... C'est idéal, quoi, hein, tu vois. Et puis je la trouvais belle comme tout, quoi. D'ailleurs, je peux te montrer une photo, elle était vraiment très, très belle. C'était le coup de foudre, vraiment.
Ils se sont mariés en décembre. Michel attend toujours une demande en mariage, en bonne et due forme. Mais pour Richard, avec un esprit aussi pratique, ça allait de soi. Et comme ils voulaient partir à la mission Porte Ouverte Ensemble, où il fallait être marié depuis 3 mois, ils ont fait le compte à rebours.
On a enquiquiné tout le monde, on s'est mariés le 30 décembre. Tout le monde, toutes les femmes, les deux familles ont été bouleversées. Parce que, nouvel an, nous on s'est mariés le 30 décembre.
Le rêve de Richard n'était plus de devenir la terreur du coin, mais de partir en mission. Un jour, Michel et lui entendent un témoignage d'une femme missionnaire en Afrique qui lance un appel. Sans se concerter, les deux se lèvent en même temps, surpris que cet appel résonne aussi pour l'autre.
On ne voulait pas d'enfant avant de partir. Mais Cédric a dit « Coucou, je suis là !» Oui, alors nous, on ne s'y attendait pas du tout. Ce n'était pas le projet. Alors, des enfants, oui, on avait, bien sûr qu'on voulait des enfants, mais pas de cette façon. Donc, on est parti en Afrique... Michel enceinte, avec des risques de fausse couche, parce qu'elle avait déjà eu des problèmes. Et puis, c'était pas une petite affaire. On a resté 18 mois en Afrique. Et puis on est rentré d'urgence parce qu'elle était... Le médecin m'a dit, maintenant, tu prends ta femme, ton gosse, et vous rentrez en Suisse. Autrement, moi, je ne peux pas la soigner, donc elle va mourir. Donc si tu restes ici au Burkina, tu perds ta femme. On ne peut rien faire. Elle avait un abcès amibien au foie, et ça, c'est irréversible en Afrique, on ne peut pas le soigner. Enfin, à l'époque, en tout cas. Alors, on a une, deux, et hasard de Dieu, à l'époque, on devait avoir le billet de retour. On ne pouvait pas partir sur le terrain africain puis y rester sans avoir un billet valable tout le temps pour revenir. Donc, en 10 jours, une semaine, on a fait nos bagages, on a tout préparé pour que les autres puissent les envoyer quand ce sera le moment, parce qu'on travaillait par bateau. On avait des tonneaux avec toutes nos affaires dedans. Et nous, on a pris l'avion, on est rentré. On s'est posé à midi à l'aéroport, et puis à midi et demi ou 1h15, elle était à l'hôpital dans son lit.
Retour à la case départ. Leur famille s'est agrandie au fil des années de 3 autres enfants. Des cadeaux, comme dit Richard, mais avec beaucoup de défis. Ça l'a poussé à prier davantage, à expérimenter l'évangile d'une autre manière, de faire comme sa maman avait fait pour lui. Oui, mais voilà, il fallait la nourrir, cette famille. Richard avait toujours en tête l'idée de repartir. Il a accepté un travail dans une quincaillerie à Nyon. Juste pour dépanner, hein, pas plus de 15 jours. Ben, il y est resté 3 ans et 17 ans à Nyon en tout.
Mais alors, là, c'est là que le Seigneur est encore une fois venu me chercher. Il y avait une institutrice, une infirmière, et puis encore une ou deux personnes qui coachaient un groupe de jeunes qui s'appelait le CADNA. Parce qu'ils étaient dans un dépôt de menuisiers et qui étaient désaffectés. On leur avait prêté ce logement, cette salle pour le groupe de jeunes. Et puis, il y avait des grillages autour, et ils entraient les boguets dans le grillage, puis ils fermaient, ils fermaient la porte, mais ils ne la cotaient pas. Et puis, il y a des petits malins qui, pour embêter, leur ont mis un cadenas autour de la porte, donc ils n'ont pas pu sortir les vélos moteurs. Quand ils ont fini à 10h ou 10h30, ils étaient coincés dans la barre. C'est toute une histoire pour s'en sortir. Moi, j'étais encore pas dans le coup, là, tu vois. Et puis ils ont dit, on va s'appeler le cadenas. Juste pour faire la nique à ceux qui avaient mis le cadenas, tu vois. Et puis, on passe, les deux femmes là qui s'occupaient de ce groupe, qui priaient toutes les semaines pour ça, elles sont venues me chercher. Elles me disaient, écoute, toi qui as de l'expérience, tu es jeune chrétien, est-ce que tu ne donnerais pas un coup de main à ces jeunes, parce qu'ils ne vont pas s'en sortir tout seuls. Puis ils ne voulaient pas de pasteur, ils voulaient être entre eux. Et puis j'ai dit, je vais lui aller quelques fois. Puis quelques fois, ça a fait quelques années.
Et puis un jour, l'église a eu besoin d'un nouveau pasteur. Lorsque Richard est parti en mission au Burkina Faso, il avait trouvé que sa formation n'était pas suffisante et il avait suivi des cours de théologie par correspondance.
Et puis tout de suite, les parents des jeunes qui me connaissaient, parce que j'ai tout de suite pris contact avec les familles, enfin j'ai été intégré, quoi. Enfin, nous étions intégrés. Et dans l'église en question, la moitié de l'église disait, mais il n'y a qu'à demander à Fossera, il est tout à fait à la hauteur, on a vu, on l'a expérimenté, puis j'avais prêché quelques fois. Et puis l'autre moitié de l'église disait, ah oui, n'importe qui, mais pas lui, s'il vous plaît, pas lui. Alors, pas d'un petit pentecôtiste là, comme pasteur dans l'église. Et ils n'ont pas dit ça, mais c'était ça l'idée. Et puis, ils se sont disputés, puis ils ne sont pas venus. Puis alors, ils ont dit, bon, on va prier. Alors, ils ont fait une cellule de prière, une poignée de chrétiens, je ne sais pas qui. Il y a un ou deux, je sais qui c'était, mais je ne sais pas tous qui. Et puis, ils ont prié tous les vendredis matin pour ça.
Le temps a passé. Il est devenu gérant à la COP à Genève, puis responsable pour la Suisse romande pour visiter les quincailleries. Il a fait plus de 50 000 kilomètres en une année.
Et puis là, est-ce qu'on pourrait venir te voir? Oui, alors bon, on les a reçus à la maison, ils sont venus 3. Puis il dit, voilà, écoute Richard, on a prié, on a réfléchi. Est-ce que tu es toujours disponible pour être le pasteur de l'église?
Pasteur, il aura fallu des années pour que la parole d'une maman puisse s'accomplir, celle d'avoir un fils qui sert Dieu. Il va exercer jusqu'à la retraite, avec des hauts, des bas, des victoires, des combats, des joies, des déceptions, des rires, des larmes, des chutes, des défis, des guérisons.
Alors, je pense que si le Seigneur n'est pas intervenu dans ma vie et ne pas cherché au point de me rencontrer et de transformer le voyou que je devenais en homme de Dieu, alors je détesterais ma vie. Mais parce qu'il y a cette grâce imméritée et incompréhensible en dehors de l'amour du Père que Dieu était, et du père que le pasteur Hubert est devenu dans la foi, un père et puis un autre, voilà. J'ai eu deux hommes qui ont été vraiment des figures de père comme j'avais besoin. Mais j'aimais mon père, hein, mais c'était pas le cœur du père, c'était le père voyou. Il n'était pas un voyou, mais il aimait ça. Et quelque part, parce que ma vie a été visitée et habitée et conduite par le Père Céleste, je recommencerai sans hésiter.
Dieu a mis tout en œuvre pour que Richard vienne creuser au pied de son arbre. Lorsqu'il a enfin découvert le trésor inestimable de l'amour de son Créateur, Richard aurait pu le garder caché sous son arbre, juste pour lui. Mais sa famille a été touchée en plein cœur. Sa maman, son papa, sa sœur, sa grand-maman ont mis à leur tour leurs pas dans ceux de Dieu. Richard a choisi de cultiver ce trésor. Dans la Bible, il y a ce verset qui dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruiront point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et je crois que le cœur de Richard est déjà bien planté dans le ciel. Vous avez écouté « Il était une fois des sages ». À bientôt pour un prochain épisode.